Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'écoute de Radio Vatican. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de notre programme. Mercredi, à l'audience générale, place Saint-Pierre, le pape est revenu sur son voyage à Marseille, en France, à l'occasion des rencontres méditerranéennes tenues du 17 au 24 septembre dernier. Pour le pape, Marseille a permis un regard humain sur la Méditerranée. Plus de détails juste après les titres. Et dans cette édition, nous serons en République démocratique du Congo, où l'archidiocèse de Lubumbashi a choisi comme thème pour l'année pastorale 2023-2024 « Pas d'environnement sans nous ». Ce thème a été dévoilé dimanche 24 septembre par Mgr Fulgence Moutéba, l'ordinaire du lieu, lors de la messe de rentrée pastorale. L'ambassadeur de France au Niger a quitté Niamey mercredi, une exigence des militaires au pouvoir à laquelle Paris a fini par céder après plusieurs semaines de bras de fer. Nous en parlons dans l'actualité sociopolitique africaine. Dans la deuxième partie de cette édition, vous entendrez tout d'abord Mgr Aristide Gonzalo, l'évêque de Porto Novo au Bénin, qui exprime sa gratitude au pape suite à son télégramme de condoléances et de proximité avec les victimes de l'incendie survenu samedi 23 septembre à Sémécraqué, qui a fait plus d'une trentaine de morts et de nombreux blessés, avant de retrouver Mgr Alexis Toibliulo, président de la Conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, dans la suite de son entretien accordé à Radio Vatican sur la situation sociopolitique au Sahel.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
L'Europe doit retrouver la passion, l'enthousiasme et l'espérance. Dans sa catéchèse lors de l'audience générale mercredi 27 septembre, le pape François est revenu sur son récent voyage apostolique à Marseille. De ses 26 heures dans la cité phocéenne pour clôturer les rencontres méditerranéennes en présence de 140 jeunes et évêques, le souverain pontife a retenu un regard humain et non idéologique posé sur la Méditerranée. Le compte rendu de Delphine Allaire.
Être un laboratoire de paix, telle est la vocation de la Méditerranée, berceau de civilisation. Un berceau, c'est pour la vie, rappelle le pape Saint-Dignan. On ne peut pas permettre qu'elle devienne un tombeau. Tout cela ne se fait pas par magie et n'est jamais acquis. Une fois pour toutes, reconnaît François, appelant chaque génération à œuvrer en ce sens en lisant les signes des temps qu'elle vit. Signes des temps sont précisément les migrations forcées, estime le pape, retenant de l'événement marseillais un regard simplement humain, ni idéologique, ni politiquement correct, mais plein d'espérance.
Questa speranza non deve volatizzarsi, deve organizzarsi, concretizzarsi in azioni a lungo, medio e breve termine.
Cette espérance ne peut et ne doit pas se volatiliser, elle doit s'organiser, se concrétiser dans des actions à long, moyen et court terme, a souligné le souverain pontife, plaidant pour que les personnes choisissent d'émigrer ou de rester en ayant des conditions dignes dans leur pays d'origine. Autre aspect, le nécessaire regain d'espérance en Europe, en effet, interroge François, comment accueillir les autres si nous n'avons pas nous-mêmes un horizon ouvert sur l'avenir. Le pape exhorte les sociétés malades de l'individualisme, du consumérisme et de l'évasion vide à s'oxygéner l'âme et l'esprit pour affronter ainsi positivement la crise. Une passion et un enthousiasme rencontrés à Marseille dans ses pasteurs et son peuple de Dieu, a souri le pape, rendant ainsi grâce pour son récent voyage et invoquant Notre-Dame de la Garde.
Parlons à présent de cette rencontre virtuelle entre le pape et 12 étudiants asiatiques de l'Inde, du Népal et du Pakistan. Une initiative de Building Bridge de la Commission pontificale pour l'Amérique latine et de l'Université Loyola de Chicago qui a eu lieu mardi 26 septembre. Les échanges ont porté sur la liberté religieuse et le témoignage et le suicide des jeunes, les réseaux sociaux et l'éducation. Aux médias. S'adressant aux jeunes d'Asie, le pape les a exhortés à être des témoins de l'harmonie contre les idéologies. Pour le Saint-Père, face à tant de sécularisme, la réponse ne peut être que le témoignage, fort de la pensée que Dieu a un projet pour moi. Pensez, conseille-t-il, à l'audace de vos pères qui ont reconnu Jésus comme sauveur et rêvez que nous pouvons vivre avec des points de vue différents, mais avec une main tendue et non paralysée. Cela fait grandir tout le monde, toujours le pardon, la main tendue et le témoignage, a recommandé le Saint-Père. Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège, s'est exprimé mardi lors de la réunion de haut niveau de l'ONU pour la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Dans son intervention, Mgr Gallagher a notamment fait savoir que le pape n'a de cesse insisté sur le fait que l'objectif ultime de l'élimination totale des armes nucléaires devient à la fois un défi et un impératif moral et humanitaire. Le Saint-Siège, a-t-il poursuivi, espère que la deuxième réunion des États parties conviendra de nouvelles mesures pour faire progresser la vérification et les obligations positives en s'appuyant sur le plan d'action de Vienne. L'élimination totale des armes nucléaires exige une réponse collective fondée sur la confiance mutuelle. La communauté internationale doit continuer à explorer les moyens de renforcer la sécurité coopérative à cette fin, a indiqué Mgr Paul-Richard Gallagher. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en République démocratique du Congo, d'où notre correspondant nous fit savoir que l'archidiocèse de Lubumbashi a choisi comme thème pour l'année pastorale 2023-2024 « Pas d'environnement sans eau ».
La protection, la préservation et la conservation de l'environnement, l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, les a proposés comme thème pour l'année pastorale 2023-2024. Le dimanche 24 septembre, les fidèles de la ville de Lubumbashi ont participé à la messe présidée par leur archevêque dans la cour du lycée Twendele. Mgr Muteba a publié le thème pour la nouvelle année pastorale « Pas d'environnement sans nous ». Mazingira Sibila Sisi. Les fidèles sont invités à adopter chacun des comportements visant à préserver l'environnement. L'archevêque a épinglé la pollution due à l'extraction minière dans toute la région du Grand Katanga. Mgr Muteba a aussi fustigé la déforestation. Il est difficile de trouver un arbre de 13 mètres ou un baobab aux alentours de la ville de Lubumbashi, a-t-il déploré, avant de préconiser une conversion écologique. L'archevêque de Lubumbashi a annoncé l'érection d'un centre marial diocésain moderne à Kiswichi, pour être un modèle de l'engagement pour la protection de l'environnement dans l'idée de l'encyclique papale Laudato Si. À la fin de la messe du dimanche 24 septembre, des jeunes membres de la commission diocésaine de l'environnement Laudato Si ont présenté un sketch pour montrer les comportements à bannir au quotidien en vue de préserver la nature et d'améliorer la vie commune. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Ouvrons l'actualité sociopolitique de cette édition par le Niger. L'ambassadeur de France dans ce pays, Sylvain Ité, a quitté Niamey mercredi. C'est ce qu'ont indiqué une source diplomatique de l'ambassade française et une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien. Le régime militaire nigérien au pouvoir exigeait son départ depuis fin août. Il lui avait notamment retiré son immunité et son visa diplomatique malgré le refus de Paris de le rappeler. Le désormais ex-ambassadeur de France au Niger a quitté Niamey avec six de ses collaborateurs. Son avion a pris la direction du Tchad, a précisé la source ministérielle. Les États-Unis ont annoncé mardi suspendre une partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État fin août dans ce pays d'Afrique centrale, riche en pétrole et qui était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Les États-Unis veulent prendre le temps pour évaluer la politique issue du coup d'État, a indiqué le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dans un communiqué. Il n'a pas été précisé le montant de l'aide ainsi suspendue, ni les programmes directement visés, mais cette décision ne concerne pas les opérations consulaires ou de l'ambassade des États-Unis. Plusieurs centaines de partisans du président de transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se sont rassemblés mardi dans le centre de la capitale Ouagadougou après des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux et dans Jeune Afrique faisant état de tensions au sein de l'exécutif. Les manifestants ont réitéré leur soutien au capitaine Traoré. Plus tôt dans la soirée, les soutiens du capitaine Traoré avaient appelé via les réseaux sociaux la population à descendre dans la rue pour défendre le régime après la diffusion de rumeurs selon lesquelles les tentatives de déstabilisation de l'exécutif étaient en cours. Du sport, pour refermer les pages de l'actualité sociopolitique africaine, le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 après le retrait de ses concurrents dont l'Algérie, a annoncé mercredi au Caire le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe. L'édition 2027 se tiendra quant à elle au Kenya, en Ouganda, et en Tanzanie, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2024. Dans un télégramme adressé le 26 septembre 2023 à Mgr Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo au Bénin, le pape François exprimait sa tristesse après l'incendie meurtrier qui a fait au moins 34 morts le 23 septembre dans un entrepôt de carburant à Sémécraqué. Dans cet entretien que nous vous proposons au lendemain de ce télégramme, Mgr Gonzalo exprime sa gratitude au Saint-Père et nous parle de la proximité de l'Église sur place.
Après le télégramme du pape, mes impressions sont largement positives, au-delà des attentes. Et j'ai été très frappé par la proximité priante du pape François, une proximité toujours vive et qui est manifestée à nous, notamment aux victimes de ce drame de Sémécraqué. J'ai un sentiment de profonde gratitude devant le témoignage de solidarité et de communion du pape François à notre égard. Et nous nous trouvons tous encouragés et réconfortés surtout par l'intercession de la Vierge Marie et les bénédictions divines que le pape implore sur nous.
Est-il possible de savoir ce qui s'est passé, ce qui a provoqué cet incendie?
En réalité, il y a diverses versions. Pour l'instant, je ne me risquerai pas à adopter une version comme étant la version officielle. Et je laisse cela peut-être au soin des autorités qui sont toujours en train de mener des enquêtes. C'est vraiment des images insoutenables.
Alors déjà, que fait le diocèse de Porto Novo pour soutenir ces personnes, ces blessés, ces personnes qui beaucoup, sans doute beaucoup perdues dans cet incendie?
Il y a d'abord eu la dimension essentielle de la prière et de la compassion. Et cette solidarité s'est manifestée d'abord au niveau de la paroisse de Sémécraqué qui a pris les choses en main tout de suite. Et nous avons essayé à ce niveau-là de communiquer pour que les fidèles puissent communier vraiment à la souffrance et puis au deuil de ceux qui sont victimes directes ou collatérales de ce drame-là. Ensuite, comme la foi sans les œuvres est une foi morte, comme le dit si bien l'apôtre Jacques, il y a des dispositions pratiques qui sont prises, notamment avec les différentes caritas. D'abord, la caritas paroissiale qui actuellement est en train de mener un travail de fond pour, en collaboration avec les autorités locales, pour identifier les familles impactées par ce drame-là et voir un peu les différentes situations. Une séance de travail qui est faite entre la caritas paroissiale et la caritas diocésaine, en attendant que la caritas nationale soit impliquée dans les dispositions pratiques à prendre, qui sont fruits de la prière et de la compassion. Il y a aussi toutes les âmes de bonne volonté, car nous savons que tous ceux qui sont impliqués à nos côtés ne sont pas tous de confession chrétienne catholique.
La dernière articulation de cette édition nous conduit au Sahel, où l'alliance des États de cette partie de l'Afrique de l'Ouest a été récemment signée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'alliance des États du Sahel est, selon Mgr Alexis Toibliulo, une réaction humaine normale. Qui voit venir un danger prend ses précautions. C'est ce qu'a déclaré le président de la CERAO, la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, dans un entretien accordé à Radio Vatican. Dans cette deuxième et dernière partie de cet entretien que nous vous proposons, Mgr Toibli insiste sur la résolution pacifique de la crise au Niger. Il propose de faire un recours aux traditions africaines pour y puiser des éléments de solution.
S'ils ont pris la décision de créer cette alliance, c'est parce qu'ils ont vu le danger. Mais il ne fallait même pas créer le danger. Nous pensons qu'en Afrique, on a d'autres défis à relever que ça. Regardez tous ces jeunes qui viennent mourir dans la Méditerranée. Il y a des familles qui ne peuvent même pas scolariser leurs enfants. Voilà les défis.
L'éducation.
Il y en a tellement. Pourquoi tourner le dos à tous ces Ripoalais, créer encore d'autres difficultés. Donc, j'ai dit, cette alliance, c'est une réaction tout à fait humaine. Quand on se sent menacé, quand on sent le danger venir, on se protège. Mais il ne fallait même pas en arriver là. Et pour ne pas en arriver là, c'est les cœurs qu'il faut changer. Je crois que j'aime bien cet auteur, Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure Ambiguë. Quelque part, il dit, mais est-ce que nous, là, on a encore assez de substance pour demeurer nous-mêmes? Chez nous, on ne règle pas les problèmes par la force. Il faut qu'on fasse aussi recours à nos cultures. Quel que soit le danger, quel que soit le problème, on se réunit. Les chefs de famille se réunissent sous l'arbre à palabre. Et on cherche par la... Nous sommes un peu de négociation, un peu de dialogue. Donc,
une solution pacifique.
Voilà. Nos traditions, on ne s'affronte pas comme ça. On va sous l'arbre à palabre, les familles sont là, on discute, on cherche la solution. Revenons à nos cultures. Mais notre substance culturelle pourrait nous aider à régler nos problèmes aujourd'hui. Mais comme dit Cheikh Hamidou Kane, est-ce que nous avons encore assez de substance pour demeurer nous-mêmes? C'est parce qu'on n'est plus nous-mêmes.
Donc, il faut faire recours à nos propres cultures pour pouvoir puiser.
Oui, culture de dialogue, de conciliation. Chez moi, bon, c'est vrai, ma tribu n'est pas... C'est un petit peuple qui n'est pas connu. Mais j'ai beaucoup côtoyé la tradition. Quand il y a un problème grave, on se réunit, les gens parlent. Et puis, il y a une parole que les chefs disent. Et quand ils disent cette parole, l'affaire est terminée. Quand on dit « bâti », ça dit « on a enterré ». « Bâti », ça dit « soyons ensemble, quelles que soient les difficultés. » Et une fois qu'on a dit ça, quelle que soit la gravité, l'affaire est finie. Pourquoi on ne reviendrait pas à ces fondamentaux de notre culture?
Et revenir aux fondamentaux de la culture, et vous venez de dire aussi que cette alliance est une réaction tout à fait normale.
Normale, parce que compréhensible.
Qui se sent attaqué doit se protéger. Oui. Mais en cas d'attaque de la CEDEAO, en cas d'une intervention militaire, est-ce qu'il n'y a pas les risques d'une implosion de la région puisque les pays de cette alliance vont contre-attaquer?
Très bien. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il ne fallait même pas en arriver là. Ces affaires d'alliance, il ne fallait même pas en arriver là. Parce que si ça explose, ben, c'est toute la sous-région qui sera ébranlée. Et j'y ai réfléchi. J'ai dit, il n'y a pas... le Mali à part, le Niger à part, le Burkina à part, la Côte d'Ivoire à part, le Ghana. Non, c'est un seul bloc. Regardez nos frontières. Mais c'est le même peuple qu'on trouve de part et d'autre de nos frontières. Prenez le Nigeria, le Niger. Mais c'est le même peuple. On trouve les Haoussa de part et d'autre. Prenez la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali. Quand vous allez au nord de la Côte d'Ivoire, Tingrela, c'est le Mali, c'est le même peuple. Vous allez de l'autre côté au nord-est. C'est le Burkina, là-bas, où sont les frontières? C'est le même peuple. Donc, s'il y a une étincelle qui salue, ça va embraser tout le monde. Donc, et puis, mais quand on prend, il y a pas seulement nos frontières qui sont, même les migrations des peuples au cours de l'histoire. Mais les peuples ont bougé, les mêmes peuples se retrouvent partout. Vous prenez n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a dans ce pays des ressortissants de tous les autres pays.
Donc c'est pour dire qu'aucune solution armée n'est
ça ne résout pas le problème
dans ce contexte ici.
Non,
aucune. Non, faut pas.
Ça va s'embraser parce que nous sommes imbriqués les uns dans les autres.
Faut passer par la diplomatie, et par le dialogue.
Oui, par le dialogue.
Et dans ce contexte, que diriez-vous, quel message lanceriez-vous aussi bien aux politiciens qu'aux chrétiens et aux populations de la région Afrique de l'Ouest?
Mais d'abord même, je dirais à tous ensemble, je dis il faut être réaliste. Et le réalisme nous fait dire qu'aujourd'hui, nos peuples sont tellement imbriqués que personne ne gagnerait à faire la guerre à qui que ce soit. C'est quoi, nous, les évêques de la CEDEAO, on n'a rien dit d'autre que ça. Nous condamnons les coups d'État, mais aussi nous réprouvons la guerre, parce que dans les deux cas, c'est de la violence. S'il y a une guerre à mener, on doit s'unir pour mener la guerre contre la misère. Parce que c'est ça aujourd'hui le grand défi.
Monseigneur Alexis Touabliyulo, évêque d'Agboville en Côte d'Ivoire et président de la CEDEAO, la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, interrogé par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Niamia. Merci de votre fidélité à Radio Vatican. À très bientôt.